lire avec moi un psaume, le psaume 77, il faisait partie de ce défi hein, qui est, je crois, sur le site internet, mais aussi affiché derrière dans notre salle. Et c'était cette semaine que normalement vous êtes arrivés, ceux qui ont eu ce plan de lecture, qui ont voulu suivre cela, ils sont arrivés au psaume 77 normalement. Alors nous allons le lire ensemble. Au chef des chantres d'après Yedutun. Psaume d'Azaph. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrents. Le tonnerre retentit dans les nues et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux. Et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et d'Aaron. Nous avons lu dans le verset 1, cela nous est indiqué ici et certainement pas pour rien, puisque toute parole là est inspirée par le Saint-Esprit. C'est un psaume d'Azaph. C'est Azaph qui a fait ce psaume, qui a composé ce psaume inspiré par le Saint-Esprit. Alors qui est Azaph? Azaph était un lévite. On va le voir dans le livre des Chroniques. Et c'est intéressant de voir quel était son rôle que le roi David lui a donné. Alors j'aimerais qu'on prenne dans le livre des Chroniques un texte qui va nous expliquer qui est Azaph et aussi quelle était sa fonction. 1 Chronique 16, on va lire le verset 4 à 16. Après le livre des Rois, vous avez les Chroniques. Et là, c'est 1 Chronique 16, premier livre des Chroniques au chapitre 16. Voilà comment Azaph a été introduit, surtout dans quelle fonction il a été introduit. Au verset 4, c'est David dont il est question. David remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel. Donc devant ce coffre qui contenait le témoignage, les commandements de Dieu, les 10 commandements, les 2 tables de la loi, et aussi un peu de manne, le témoignage de Dieu. Voilà comment il a été introduit. Donc David a remis à des Lévites cette charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel. d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef. Zacharie le second après lui, Jeiel, Shemiramoth, Jeiel, Matitia, Eliab, Benaya, Obed-Edom et Jeiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Donc il était dans les instruments à percussion. Les sacrificateurs Benaya et Jakaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Rappelez-vous l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Voilà, on aurait pu continuer. Ces Lévites là, comme Asaph, avaient ce rôle de rappeler, d'éveiller le souvenir du peuple pour qu'ils n'oublient jamais l'Éternel, qui les a délivrés, qui les a fait sortir de l'esclavage égyptien, qui les a fait traverser la mer. Alors nous revenons dans notre psaume, ça c'était pour présenter l'auteur, et nous voyons qu'il commence tout de suite à faire ce à quoi il a été appelé. Hein. Vous voyez, dans ce psaume 77, effectivement, nous voyons Asaph faire selon sa vocation. Il dit, ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Une confiance. Il dit, j'invoque Dieu, il m'écoutera. Quelle confiance. Formidable. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. Donc Asaph lui-même essaye d'abord lui-même de mettre en pratique ce qu'il est appelé à enseigner aux autres. Asaph le met d'abord en pratique lui-même. Et nous allons voir les combats qu'il va d'abord lui-même subir, éprouver. Donc lui-même essaye d'abord de mettre ça en pratique. Il fait selon sa fonction. Il invoque lui-même le Seigneur. Il a confiance. Il dit, il m'écoutera. Il a confiance que dans l'avenir, le Seigneur l'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme... Alors là, on est étonné. Ça ne vous choque pas? Moi, ça m'a choqué. C'est incroyable. Il fait exactement ce qu'il faut. Ses mains sont étendues. Ça, c'est pour les Hébreux, la position de la prière. Paume de main vers le ciel. Ses mains sont étendues sans se lasser, même la nuit. On sent ici une profonde détresse qui le fait crier. C'est une supplication, puisqu'il crie à l'Éternel. Il crie avec confiance, il crie sans se lasser. Il persévère dans la prière. Il fait exactement ce qu'il faut. Un bon modèle pour nous, un bon exemple. Il fait ce qu'il faut, et pourtant, qu'est-ce qui est marqué? Il n'arrive pas à consoler son âme. Son âme reste dans une tristesse. On sent qu'il est dans une épreuve terrible ici. Et il fait ce qu'il doit faire aux autres, c'est-à-dire rappeler aux autres le souvenir des délivrances d'autrefois, au verset 4, il dit « Je me souviens de Dieu ». Mais l'effet que ça fait, on dirait « Et je gémis ». Bizarre. Bizarre. Mais je me rappelle de Dieu et je gémis. Je médite, je réfléchis. Et mon esprit est abattu. Et il y a une pause. Hein. Il y a une pause pour nous, ça permet de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Apparemment, il dort pas bien la nuit, verset 5. Tu tiens mes paupières en éveil. Tu tiens mes paupières. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Je devrais pourtant parler aux autres de tes grandeurs. Mais je ne peux plus parler. Je ne peux même pas parler. Je suis tellement troublé. Il est dans une situation ici présente où plus rien de visible en tout cas, plus rien de visible n'est positif. Alors, si plus rien n'est positif dans le présent, eh bien oui, on peut se projeter dans le passé, je pense, au verset 6, je pense aux jours d'autrefois, aux années d'autrefois. Peut-être je chantais dans la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur, je réfléchis. Et puis, je me pose des questions là. Là, je me pose des questions, Seigneur. Pourquoi je me pose des questions? Mais parce que, ici, nous avons affaire à Asaph, il est dans une situation, vous savez laquelle? C'est qu'il a prié, il a fait ce qu'il pouvait de son côté. Il a prié avec persévérance, et Dieu est resté silencieux. Ou alors, Dieu n'a pas du tout agi comme il l'avait prévu, lui. Il pose cette question. Il se pose cette question, c'est à l'intérieur de son cœur, voilà le combat de la foi. Il dit, au verset 8, « Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ?» Est-ce qu'il va toujours permettre que je reste dans cette situation? Rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Il était peut-être autrefois. Si je compare à autrefois, j'ai entendu parler que Dieu a fait des miracles autrefois. Il a fait passer notre peuple d'Israël. Voilà ce que Asaph pensait. Il a fait passer le peuple d'Israël à travers la mer. Il les a sortis de l'Égypte. Il a fait des miracles. Les 10 plaies en Égypte qui ont été faites là devant Pharaon. Il a fait des choses étonnantes. Et si je compare ça à aujourd'hui, eh bien, c'est ça qui me fait souffrir. Il se pose des questions, le Seigneur rejettera-t-il? C'est ça, au verset 11, il le dit carrément. Je dis, ce qui fait ma souffrance... Vous voyez, d'abord, ça devient, c'est des petites réflexions, des petites pensées comme ça qui nous viennent. Tiens, on compare aujourd'hui avec autrefois. Et puis après, ça en vient à une confession. Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut, la manière d'agir de Dieu n'est plus la même. C'est plus comme autrefois. La manière d'agir de Dieu n'est plus la même. Voilà ce qui me fait souffrir. Au début, c'est des questions et après, c'est une confession. C'est une confession. C'est une confession. Parce que, après, vous allez voir la repentance. Il y a une repentance. J'ai essayé de vous la faire sentir par l'intonation de ma voix. Peut-être certains ont remarqué cela. Qu'il y a ces questions parce que Dieu ne répond pas. Dieu, on dirait qu'il reste sourd à ses prières. Lui, il fait ce qu'il faut. Il prie. Nuit et jour, on peut dire. Et puis, non, il reste dans le trouble. Mon âme refuse toute consolation. Ça veut dire que tu ne me donnes pas ce que je t'ai demandé. Donc, mon âme est inconsolable. Il est bien, au verset 3, c'est bien écrit, au jour de ma détresse. Il est bien dans la détresse. Et dans sa détresse, il a cherché au bon endroit. Je cherche le Seigneur. Mais là, il se pose des questions au verset 8, il commence vraiment, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Est-ce qu'il va toujours rejeter mes prières? Est-ce que sa bonté est à jamais épuisée? Est-ce qu'il a oublié d'avoir compassion, verset 10? La question a une réponse dans la Bible, n'est-ce pas? Lisons dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3. Bien sûr, à toutes ces questions, nous savons qu'il faut répondre non. Dieu n'a pas oublié d'être compatissant. Non, non. Dans Lamentations, au chapitre 3, au verset 21, voilà ce que le prophète Jérémie nous dit. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est exactement la réponse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Asaph, il pose la question, parce qu'il n'y a pas de réponse selon ce que lui avait envisagé, parce qu'il n'y a pas, il y a comme le silence vis-à-vis de ses prières continuelles. Et alors, il se pose la question, est-ce que la bonté de Dieu est pour toujours épuisée? Jérémie répond, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, c'est pas fini. Et au verset 23, qu'est-ce qui est marqué? Elle se renouvelle chaque matin. Les bontés, les compassions de Dieu, Dieu est compatissant à chaque matin avec toi et te donne assez de force pour la nouvelle journée. Les compassions, les bontés de Dieu, la force qu'il te communique, eh bien, c'est suffisant pour chaque jour. Verset 24, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alors, vous savez, le Seigneur a promis que chaque matin, les bontés, la force de Dieu qu'il va nous donner, nous communiquer chaque matin, elle sera suffisante pour ceux qui espèrent en l'Éternel. Chaque matin, chaque matin. Mais attention, pas chaque soir. Le soir, il ne va pas déjà te donner la force pour le lendemain. Ni surtout la veille au petit matin. La veille au petit matin, tu vas affronter la journée. Et là, tu cherches le Seigneur. Avec tous tes problèmes, tu cherches le Seigneur. Le Seigneur te communiquera assez de force pour cette journée. C'est comme si le matin, tu as une immense montagne devant toi, une immense, des centaines de tonnes, et puis, tu commences ton travail, il y a justement une armée de camions et de bulldozers qui vient et t'aide à enlever ce tas de sable, des centaines de tonnes. Ce n'est pas un problème parce que tu as assez de camions et assez de bulldozers. Pas de problème. Mais si, avec tous ces camions que tu as aujourd'hui, si tu penses à demain, et demain, tu as de l'autre côté de cette maison, encore une fois, une centaine de tonnes de sable à enlever. Mais tu fais la grande erreur, la plus grande erreur de calcul, c'est de compter sans Dieu. De compter que Dieu, ah tu as oublié, tu sais le travail qu'il y aura demain, mais tu as oublié que Dieu va t'envoyer aussi, peut-être pas des bulldozers ni des camions, peut-être demain ça sera pas comme tu l'as imaginé. Il va peut-être envoyer un hélicoptère avec des Boeing, je ne sais pas, et puis peut-être une manière tout à fait particulière à laquelle tu n'avais pas pensé. Ça sera peut-être fait par le ciel, je ne sais pas, des hélicoptères avec, ou des pelles mécaniques au lieu des bulldozers. Toi, tu avais pensé bulldozer, mais lui va envoyer une pelle mécanique pour charger des camions. Bon, mais si aujourd'hui tu t'imagines ça, mais tu vas être dans l'angoisse. Tu vas être dans l'angoisse. Tu imagines le travail à faire, mais sans la force, tu t'imagines, tu fais une grande erreur. Tu fais une grande erreur. Tu as juste la force pour aujourd'hui, ce matin. Tu n'as pas reçu la force pour demain déjà. C'est ça qui nous rend dépressifs. Parce que nous voyons le travail de demain, aujourd'hui, mais nous avons oublié qu'avec ce travail, Dieu va nous donner aussi la force de faire ce travail de demain. C'est pour ça que c'est un péché de s'inquiéter du lendemain. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Ici, il nous est dit, chaque matin, les compassions, les bontés de Dieu se renouvellent. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voilà ce qui est marqué dans les Lamentations de Jérémie. Il est bon d'attendre en silence. Il est bon d'attendre en silence. Et là, Asaph est en train d'attendre. Et il a affaire au silence de Dieu. Dans le psaume 77, si vous voulez reprendre avec moi, vous le voyez, attendre en silence. Et dans ce silence, Dieu est en train de travailler son cœur. Il y a un combat de la foi. Asaph est tenté. Il est tenté, on sent la tentation ici. Est-ce que le Seigneur va vraiment toujours se taire et jamais agir? Jamais plus agir? Ou en tout cas, ce qui me fait souffrir, c'est qu'il agit plus de la même manière. La droite de l'Éternel, la droite du Très-Haut n'est plus la même. Mais vous savez, quand le Seigneur apparemment est en silence, eh bien, sachant, puisque ça vient du Seigneur, ce silence, Dieu est tellement parfait que même son silence vaut plus que de l'or. C'est encore un cadeau. Même son silence. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes seulement quand il fait blablabla, quand il papote. Si tu aimes une personne, tu l'aimes même quand elle se tait. Tu l'aimes seulement quand elle est active, quand elle travaille, quand elle intervient pour toi, quand elle te fait à manger. Non, si tu l'aimes tout le temps. Tu aimes la personne. Même le silence de Dieu, ça vaut de l'or, et plus que de l'or. Nous avons lu tout à l'heure dans Hébreux, au chapitre 4, je l'avais aussi prévu, mais Norbert me l'a déjà pris dans l'introduction, ce verset, c'est formidable. Comme c'est dit, et j'aimerais vous lire une autre traduction, la traduction de la Bible, second 21, qui nous dit une chose, que Dieu... Nous pouvons nous approcher de lui avec assurance du trône. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru. Norbert nous a lu dans nos besoins. Et ici, c'est marqué pour être secouru, c'est la même chose. Mais c'est peut-être une autre précision. Pour être secouru au moment opportun. Au moment opportun. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va déterminer quand il va agir, pas moi. Mes réels besoins, Dieu va les combler, mais pas ce que je sens être mon besoin. Moi, je pense que Dieu devrait agir maintenant tout de suite. Mais Dieu, s'il sait que je peux encore attendre une heure, il va agir que dans une heure. Alors je me dis, mais il n'agit pas selon mes besoins. Mais si, il agit selon sa grande sagesse au moment précis, opportun. Il agit au moment opportun. Le Seigneur sait agir au moment opportun. Pourquoi ? Dans le psaume 77, si nous retournons dans ce psaume, ce qui est magnifique, et là, c'est la repentance, c'est le sommet. Tout bascule ici aux trois petits points. Je ne sais pas si vous avez remarqué de certaines, au verset 11. Quand il dit enfin, quand il confesse, oui voilà, ça me fait mal, c'est que tu ne fais plus comme autrefois. C'est que tu n'agis plus comme autrefois. Eh bien, au verset 12, il y a la repentance. Il dit, je rappellerai, c'est la détermination, l'engagement, il y a une transformation ici, un changement de ton, je rappellerai un engagement, je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Avant aussi, il se souvenait, mais avant, ça produisait que des gémissements. Ici, les mêmes choses, il va se souvenir. Ça, c'est un miracle. Mais ces mêmes choses vont produire la foi. La confiance. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Mais tu te souvenais donc avant aussi. Asaph, tu te souvenais donc avant aussi. Mais vous allez voir la suite. Hein. C'est pas du tout pareil. Je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Alors, ici, d'autres versions ont simplement « Je méditerai toutes tes œuvres. Je penserai à tes hauts faits. » Alors vous allez me dire, il y a une erreur de traduction, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, il n'y a pas d'erreur. S'il y a un doute, s'il y a une légère différence dans certaines traductions, dans le verset 13, par exemple, la traduction second 21 dit « Je réfléchis à toute ton activité, je veux méditer tes hauts faits. » Alors, le Seigneur Jésus va donner la solution. Il y a une différence, hein? Le verset 13 dit, dans une traduction, je parlerai. je raconterai. Et dans une autre traduction, dit simplement, je réfléchis à toute ton activité. Dans cette Bible que nous avons vendue ici à Sarreguemines, c'est marqué, je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Je vais vous dire que ça revient au même. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ nous donne la solution. Dans le Nouveau Testament, il est écrit que de toute façon, ce qu'on médite suffisamment dans notre cœur, ce qui est au fond de nos cœurs, ça va se traduire un jour. Ça va sortir de notre bouche. Ce que nous avons dans le cœur, ça va sortir de notre bouche. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit cela. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. Donc, si Asaf s'est mis ici à raconter, c'est qu'il l'a médité avant. C'est qu'il a fait sien les merveilles de Dieu. Nous pouvons lire un passage dans Luc 6, verset 43. Luc 6, verset 43. Ça, c'est Jésus-Christ qui nous donne la solution. Comment avoir la bonne interprétation de deux traductions différentes. Luc 6, verset 43 à 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui remplit ton cœur, ça sortira. Ça sortira. Voilà, Jésus, il se trompe pas. Il nous dit ça. Si tu médites suffisamment longtemps la parole de Dieu, elle sortira. Tu vas confesser cela, tu vas évangéliser le monde. Ça sortira. Tu ne peux pas garder un tel trésor, la parole de Dieu, si tu la médites sans faire la même chose que Asaph, qu'il a écrit ici, qu'il a exprimé quand même. Et ici, nous voyons que de toute façon, Jésus a dit, Asaph, si tu la médites assez longtemps, tu vas faire ta fonction. Oui, ça va sortir de nouveau. Tu as des moments de combat, tu as des moments de doute. C'est pas grave. Tu as confessé ton doute. Tu as dit, voilà ce qui me fait souffrir. Parfois, il faut en venir. Au début, c'est flou dans notre pensée. Et puis, parfois, le Seigneur permet que notre pensée devienne plus claire. Il est la lumière. On médite, on prend un psaume et on voit, mais oui, c'est ça. C'est ça. Et j'ai identifié mon problème. Voilà ce qui fait ma souffrance. C'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Voilà, Seigneur, c'est ça. J'ai trouvé. Je le confesse. Et maintenant, je m'en repens. Eh bien, maintenant, je vais de nouveau me mettre au travail, rappeler tes œuvres, me mettre à me souvenir de tes merveilles d'autrefois. Et je vais méditer ces choses, et ça, j'en reviendrai à ma fonction à laquelle tu m'as appelé, être un témoin dans ce monde. Et au verset 14, regardez ce qu'il dit. « Ô Dieu, tes voix sont saintes !» Alors là, j'aime beaucoup. J'ai pris une traduction la plus littérale que vous pouvez trouver. Ça ne veut pas dire grand-chose, vous me direz. Parce que c'est une traduction qui est vraiment la plus proche de l'hébreu, mais alors très loin du français. Mais ça fait rien, c'est la traduction d'Arbi. Mais ça m'a appris quelque chose. Vous savez ce qui est marqué ici ? C'est « tes voix sont saintes », ça veut dire la même chose. C'est marqué « ta voix est dans le lieu saint ». Ça veut dire quoi la voix ? La voix, c'est le chemin. V-O-I-E. Le chemin, la façon de faire. « Ta voix est dans le lieu saint ». Ça veut dire, ta manière d'agir, elle n'est pas à notre niveau humain. Elle est, tu réfléchis, enfin, je ne sais pas s'il a besoin de réfléchir, il sait d'office ce qui est bon. Je ne pense pas qu'il a besoin, c'est inné chez lui, c'est chez Dieu, c'est paf, ça sort et c'est toujours juste. Donc, ta voix, elle est dans le lieu saint. Donc, si tu ne m'as pas répondu, si tu me donnes un silence pour ma prière sans cesse, si tu me donnes un silence, c'est que c'est beaucoup plus élevé. C'est que tu as prévu ça. Ta voix est dans le lieu saint. C'est pour ça, il l'appelle le Très-Haut. Regardez, au verset 11. La droite du Très-Haut n'est plus la même. Ça, c'est déjà le début, là. La voix du Très-Haut. Il est Très-Haut. Et C'est toujours au verset 13, à la fin du verset 13, je raconterai tes hauts faits. C'est plus haut. C'est plus haut que nous. On ne peut pas comprendre ça. Pourquoi Dieu ne répond pas tout de suite à nos prières? On ne peut pas comprendre. Parce que nous, on est des enfants pour lui. Mais lui, il est au-dessus, il est adulte. Lui, il est tellement, ses pensées sont tellement au-dessus de nos pensées. On ne peut pas comprendre ça. Ta voix, ta manière d'agir, elle est dans le lieu saint. Quel Dieu est grand comme Dieu. Voyez, il exprime son admiration ici, sa louange. Là, on voit Asaph qui revient à sa fonction première. C'est de louer le Seigneur. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Qui fait, encore aujourd'hui. Tu fais des miracles. Et le plus grand miracle, n'est-ce pas, qu'il a transformé ici un Asaph. Ce psaume est un miracle. Vous vous rendez compte comment Asaph commence? Plein de détermination. Oui, Seigneur, je prie et tu m'exauceras. Mais après, silence, je gémis. Mon âme est inconsolable. Ça, c'est le combat. Mais le Seigneur ne laisse pas son combattant sans lui venir en aide. Asaph persévère, il va jusqu'à sortir ce qui est en lui. Voilà, voilà, voilà mes doutes. Voilà mes doutes. Et je m'engage maintenant à revenir à ma fonction à laquelle tu m'as appelé. Être ton témoin parmi ton peuple, ou au-delà comme nous, dans les nations. Et il se met ensuite à... C'est une transformation intérieure. Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. Les fils de Jacob et de Joseph. Et là, il parle de la délivrance au verset 17. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Il parle de cette traversée de la mer Rouge, quand ils sont sortis d'Égypte. Les eaux t'ont vu, et les eaux, ils ont eu peur. Se sont retirés. C'est une manière imagée, hein. C'est un psaume, c'est poétique, bien sûr. Il a simplement commandé à l'eau de se mettre en muraille, et puis ils sont passés à sec. Ils sont passés à sec. Il rappelle ici une formidable délivrance. Au verset 20, il est écrit, « Tu te frayas un chemin par la mer. » Regardez le verset 20. « Un sentier par les grandes eaux. » Hein, il leur a fait un chemin par la mer, un sentier. Mais... regardez ce qui est marqué, et tes traces ne furent plus reconnues. Après, il y a eu la mer qui a écrasé tous les Égyptiens. Qui est-ce qui va vérifier s'il y a encore des armures égyptiennes là au fond de la mer? À l'époque, on n'avait pas des sous-marins pour voir tout de suite après tout ça. Israël devait conquérir un autre pays, ainsi de suite. Il n'y a plus de traces. Mais... ce souvenir, pour les gens de l'époque, pour Asaph à son époque, ce souvenir de la délivrance, qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui? Ce souvenir de la délivrance de l'Égypte, sortie d'Égypte, passée au travers de la mer, encore voir le mont, hein, les tonnerres, ce qu'ils ont vu sur la montagne où Dieu s'est révélé à eux. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique que ça nous est dit ici. C'est un psaume, c'est poétique. Les nuages versèrent de l'eau, le tonnerre retentit, tes flèches volèrent de toutes parts, ton tonnerre éclata. Il parle certainement de cette révélation dans le désert, sur la montagne, où la montagne a tremblé, il y a de la fumée. Mais, vous savez, cela doit nous montrer une chose, c'est que lorsque nous aussi, nous sommes dans la détresse, quand il écrit cela, Asaph, il n'y a toujours eu aucun changement de circonstance, il est toujours encore dans le même... il y a toujours encore le même souci devant ses yeux. Mais il dit des merveilles ici. Comme nous pouvons dire des merveilles avec les mêmes soucis qui sont encore devant nous, dans notre avenir. Nous pouvons dire des merveilles. Mais nous devons, puisque dans le réel, dans les choses réelles aujourd'hui, il n'y a plus de quoi sur quoi je peux m'appuyer dans le visible. Tout va mal. C'est ce qui était. Tout allait mal chez Asaph. Mais Asaph a fait ce qu'il devait faire pour les autres, il s'est souvenu. Il s'est souvenu. Et nous devons, nous aussi, nous souvenir de notre nouvelle naissance. C'est la révélation. Quand Dieu nous a secoué vraiment, nous a donné une vision claire des choses, nous a donné la vie, les yeux ouverts. Quand Dieu nous a donné des yeux ouverts, qu'est-ce que nous avons vu? Quand nous sommes nés de nouveau, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons commencé à entrevoir une œuvre. Nous avons vu Golgotha. Ça, c'est notre délivrance. Il faut deux choses. Et nous devons louer le Seigneur pour deux choses principales ici. C'est ce que ce texte me montre. Il y a deux choses. Vous savez, dans le passé, il y a 2000 ans environ, Jésus-Christ a fait une œuvre formidable. Mais depuis, il y a eu d'autres choses. Et même déjà avant, il y avait les Jeux Olympiques. En 1998, la France a gagné la Coupe du Monde de football. Il y a tellement d'événements. On est allé sur la Lune. Il y a tellement d'événements. Vous savez, ce que Jésus-Christ a fait, le monde entier, il a essayé d'oublier ça. Souvenez-vous, déjà tout de suite, on a dit aux soldats, quand il est ressuscité, n'en parlez à personne, dites bien que ce sont ses disciples qui l'ont volé. Tout est fait aujourd'hui pour qu'on n'en parle plus. C'est pas à la télé que vous entendrez beaucoup parler de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, qu'il a vraiment là expié tous nos péchés, qu'il a pris notre place. Vous entendez ça à la télé? Sur Internet? Bon, il faut déjà aller dans les sites chrétiens à ce moment-là sur Internet. Mais le monde entier nous cache ces choses. Et nous devons faire une lutte parce que tout nous est fait pour qu'on oublie ce que Jésus-Christ a fait. Et vous savez, à quoi ça aurait servi que Jésus-Christ fasse ça? À quoi ça aurait servi que Jésus-Christ fasse ça? Vous savez, en 98, la Coupe du Monde a été gagnée par les Français. Les seules traces, ici c'est marqué, et les traces ne furent plus reconnues. Si, moi j'ai encore une trace, j'ai des chaussettes, c'est marqué France 98. J'ai des chaussettes, on a vendu, il y a quelques commerçants, ils ont senti le coup arriver, ils ont fait des chaussettes, et c'est marqué dessus France 98. Je pense qu'ils ont gagné un peu plus d'argent, ceux-là, qui ont senti que les Français étaient capables de gagner la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce que ça me fait aujourd'hui? Ni chaud ni froid. Ça m'aide pas aujourd'hui. Ça m'aide pas. C'est miraculeux qu'à travers tous les événements qu'aujourd'hui on peut savoir par Internet, par les informations, vous avez des informations toute la journée, mais c'est un miracle, peut-être encore plus grand qu'à l'époque, qu'un homme aujourd'hui, il se met à étudier l'histoire de ce qui est arrivé il y a 2000 ans à Jérusalem, là, près de Jérusalem, sur le mont Golgotha. C'est un miracle. Parce que Jésus ait fait ça, c'est une chose. Mais si les hommes d'aujourd'hui ne fixent pas leur regard vers ça, ça sert à rien. Ça sert encore à rien, mes amis. Il faut une deuxième chose. Il faut que le Saint-Esprit prenne un homme, se saisisse de lui et lui dise, lis la Bible, regarde ce que Jésus-Christ a fait sur la croix et les conséquences que ça a pour toi aujourd'hui. Jésus est la lumière du monde. Mais si vous mettez un aveugle devant la lumière, il verra que du noir. Il faut encore que Jésus nous ait ouvert les yeux. À quoi ça sert que Jésus soit la lumière? S'il ne t'a pas ouvert à toi personnellement les yeux, il faut énormément de choses pour qu'un homme aille au ciel. C'est impossible aux hommes de faire ça. C'est impossible aux hommes. Que le Seigneur nous ait ouvert les yeux justement vers la seule chose essentielle, indispensable, connaissance, information à savoir. Il y a une seule chose à savoir. Sinon tu meurs, tu vas en enfer. C'est que Jésus-Christ est venu dans ce monde expier nos péchés. Il est venu mourir pour nous, ressusciter pour nous et dire à son Père que ceux qui croient en lui, ils sont justes, ils sont déclarés justes aux yeux de Dieu dans le jugement éternel. Et il nous a ouvert les yeux pour savoir cela. Il nous a ouvert le cœur, il nous a donné l'intelligence de savoir ça. C'est une pure grâce. Je n'ai rien travaillé à l'école pour savoir ça. Ça m'a été donné. Gloire à Dieu que cela nous a été donné. Alors, quand dans ton réel, dans ta journée d'aujourd'hui, il n'y a rien de positif, pense que Dieu n'a pas changé. Mais seulement, les voies de Dieu sont trop hautes pour toi, pour les comprendre. Les voies de Dieu sont trop hautes. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Le doute est venu peut-être dans ton cœur, mais confesse cela. Comme Asaph, et engage-toi sur la voie du souvenir. Je veux me souvenir qu'il y a une chose qui est importante, qui a eu lieu sur cette terre. C'est pas que l'homme a marché sur la lune, mais c'est que Dieu, en Jésus-Christ, a marché sur la terre. Amen. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Merci parce que ce psaume nous enseigne beaucoup de choses, dans la détresse surtout. L'attitude à avoir, et c'est vrai que quand nous n'obtenons pas les choses pour lesquelles nous t'avons pourtant invoqué, notre cœur reste insatisfait. Et je te prie que vraiment tu nous donnes cette confiance, que tu nous aides à garder le silence, à attendre ton silence, et à savoir que si tu n'agis pas, selon ce que nous avions imaginé, c'est que tu vas nous faire beaucoup mieux, beaucoup plus haut, des choses beaucoup plus élevées. Tu vas transformer notre cœur. Et dans l'attente que nous avons de secours de toi, tu nous donneras d'avoir plus de confiance en toi. Merci pour la confiance d'Asaph que tu lui as donnée, que nous avons constatée dans la lecture de ce psaume. Aide-nous aussi, quand les choses ne vont pas comme nous voulons, à t'invoquer, à continuer à persévérer, mais aussi à attendre en silence ton secours. Car tu ne changes pas, tu es le même, et tes compassions se renouvellent chaque matin, et nous comptons sur toi pour demain matin. Et nous ne voulons pas nous inquiéter pour le lendemain. Aide-nous, Seigneur, et viens en secours de notre manque de foi. Amen.